Mais après, relisant ou en parlant, je croyais comprendre. Bon. Et au fond, quand on explique un texte, on n'explique jamais la manière dont l'écrivain a écrit le texte. On explique ce qu'après il dit de ce texte lui-même ou ce qu'il en croit. Je remarque dans Venise, qui est un des textes, peut-être où j'exprime le mieux l'impossibilité de communiquer. Eh bien, dans Venise, je me décris, ce qui est rare dans mes nouvelles ou mes récits ou mes romans, je me décris très précisément. Pourquoi ? Ben parce que c'était très important. Je commençais de porter la barbe à ce moment-là. Et j'avais donc une veste très ramagée, un peu à la mode à ce moment-là, ça commençait à peine d'ailleurs, en 58. J'étais en avance sur mon époque, presque un bouson de hippie, Bon, je m'opposais comme individu très violemment. Je m'identifiais à Venise, je m'identifiais au palais de Venise, je m'identifiais à ce farce, à ces couleurs étincelantes. Mais je m'isolais de mon époque, qui était une époque terne, je le décris aussi longuement, tous le même costume. On n'en était pas encore au point à l'époque où les garçons et les filles avaient le même costume, les hommes avaient quand même leur costume d'homme, les femmes leur costume de femme. Mais à part ça, c'était déjà très, très, très semblable, très pareil. Donc, avec ma barbe, avec mon que personne ne portait à l'époque, avec mon blouson ouvragé, je donnais le sentiment de m'opposer. C'était vraiment la position du poète dans sa tour d'ivoire à ce moment-là. Et effectivement, je ne pouvais pas correspondre, je ne pouvais pas communiquer. Ce que disaient les autres m'ennuyait, ou je ne savais pas leur répondre. Et ça n'a pas au point où même une femme que je peux désirer, ou même peut-être aimer, je romps les ponts, je refuse de m'engager dans cette aventure parce que je ne veux pas l'encombrer, je ne veux pas charger cette autre, ce qui est insensé, bien sûr, qui est une pensée à l'apatisme et que Picobert n'aurait jamais eu. Picobert se fichait pas mal d'encombrer les autres, hein. Donc, si j'avais été moins sophistiqué, moins individualisé, il est certain que j'aurais vécu cette semaine de Venise tout à fait autrement. Comme j'ai vécu d'autres expériences, mais beaucoup plus intimes, beaucoup plus... Quand j'étais au marin, parmi les marins, et habillé en marin comme les marins, ou ouvrier à Donge, et habillé comme un ouvrier, j'étais à ce moment-là extrêmement fraternel. Parce que j'étais perdu dans l'ensemble. Est-ce que quelqu'un voudrait me dire quelque chose sur un nouvel un poète? Je crois que c'est important pour le problème qui nous concerne. Est-ce que quelqu'un a envie de me dire quelques mots juste de ce que ça m'a inspiré? Bague, je dirais, n'est-ce pas? Relation avec les autres, rencontres fugaces d'un poète, etc. Je pense que l'important dans un poète n'est pas le phénomène de la relation. Dans Venise, oui, c'était le problème. Là, c'est le problème est tout à fait différent, et je voudrais que vous me disiez que quelqu'un m'en parle. Hein. Personne ne veut me dire quelque chose là-dessus? Quelqu'un a écrit le dédoublement d'un poète, son aspect littéraire, son aspect vécu. Oui, c'est pas mal, mais je voudrais que ce soit un peu approfondi, ça. Ce n'est pas seulement une question d'aspect, je veux dire. Voilà, je connais. Bien sûr, il y a ce type avec sa pauvre défroque d'employé de la RATP, et puis il y a le poète, celui qui cherche à associer des mots, à unir des mots, à formuler des mots. Et donc, à quelqu'un d'essayer, on peut concevoir cette nouvelle un peu comme le portrait de quelqu'un qui est intelligent, qui mériterait un sort meilleur que le sien, et qui en même temps est un pauvre déchet humain. Mais je pense qu'il y a autre, enfin, je crois qu'il y a vraiment autre chose. Et quelque chose qui va toucher de très près à une autre question que vous m'avez posée, qui est est-ce qu'écrire c'est une joie ou une souffrance? Quelqu'un m'a demandé ça. Je crois qu'on va y arriver par ce biais. Remarquez que ce qu'il d'abord, ce qu'il apparaît, bon, il a une défroque, il est assez minable, mais en même temps, il n'est pas laid, il n'est pas infirme, il n'est pas boiteux, il n'a aucune sorte d'infirmité, il n'est pas exclu de la société d'une manière ou de l'autre, il n'est même pas, sa race n'est pas définie, si vous voulez, il n'y a pas de racisme dans tout ça. Donc, il n'est pas rejeté physiquement. Bon, cette mine-là, il est minable un petit peu, mais il est plutôt jeune, je dis. Peut-être s'il n'a pas cette chair maladive, parce qu'il n'a pas mangé peut-être depuis plusieurs jours à ce moment-là, il peut être sans doute un assez beau garçon, avec une petite moustache courte, il peut être un très... Son aspect physique est accidentellement répugnant, mais l'homme ne l'est pas du tout. Hein. Il se défend très bien au 421, puisqu'il me gagne la partie même. Il se défend très bien. D'un autre côté, son œuvre d'écrivain, ou son goût pour l'écrire, va le porter à des choses très différentes. On ne peut pas dire non plus, il y a d'un côté son aspect assez sordide, et d'autre part, une œuvre géniale, profonde. Son œuvre, il y a des jeunes mots qui sont peut-être très proches de la poésie, ces cyprès sont cyprès comme ces cisançons, des recherches très stylisées de mots, quels que soient ces gens, nous ne les connaissons pas, etc. Mais il y a aussi des phrases presque indistinctes, presque inintelligibles, voire prépondérance, résultat négatif non lieu. Et puis pour finir, il y a une sorte de. L'impuissance, il n'y a rien à formuler, donc il n'y a rien, ou il n'y a rien, Dieu perd ses droits lui-même. 6 mars, rien, 7 mars, rien, 8 mars, rien, 9 mars, rien, 10 mars, escalier rue Le Pic. C'est peut-être au moment où il écrit 6 mars, rien, 7 mars, rien, 8 mars, rien, qu'il est le plus poignant, qu'il est le plus profondément un créateur. Il y a, vous savez, dans les plus belles pages du journal de Kafka, il n'y a pas grand chose d'autre que ça. Rien, encore aujourd'hui, rien. Et c'est à ce moment-là que le journal de Kafka devient le plus bouleversant. Donc, vous voyez, c'est le dédoublement que vous avez imaginé au début, d'une part l'aspect littéraire du personnage, d'autre part son aspect dans la vie. Ne rend pas compte de la véritable dualité des personnages. Parce que, en tant qu'homme, il peut être minable ou il peut être sans doute agréable à voir et à fréquenter s'il est bien habillé, s'il se trouve dans un autre contexte. Et comme écrivain, il est d'autant plus écrivain qu'il peut moins écrire, ou qu'il sait moins écrire, et qu'il reconnaît. Qu'il reconnaît son vide. Alors, lorsqu'on étudie l'art d'écrire et la structure, je dirais, de l'écriture chez les grands écrivains, on trouve toujours un moment où Valéry, ou Gide, ou Kafka, ou Musset, ou les grands romantiques ont avoué cette chose extraordinaire, qu'ils n'écrivent bien, qu'ils ne créent vraiment qu'ils n'atteignent la beauté, qu'ils n'atteignent à la structure d'harmonie, que dans les moments de vide, de désespoir. C'est le grand mot romantique, les chants désespérés sont les chants les plus beaux. Voilà. Mais Musset dira plus, c'est à George Sand, il écrit après une de ses nuits, je crois la nuit de mai, il écrit « Je n'ai jamais été si vide, je ne peux même plus saisir mes mots, je sens pourtant que je suis plus grand maintenant dans cette impuissance, que je ne l'étais autant que je voulais à toute force. dire les choses et être un grand écrivain. Ce besoin d'être vide, d'être absent, Beckett dira, c'est après Rousseau aussi d'ailleurs, tous les deux, curieusement, l'un au 18e et l'autre à notre époque, disent la même chose, c'est après une grande promenade, dans un état de fatigue physique, que quelquefois se trouve le mot qui va me... qui va éclairer ma vision des choses. Il y aurait ce mot aussi, mais il y en aurait des centaines, ce mot de Joyce, qui est un grand écrivain anglais, James Joyce, certainement un des grands de ce siècle, qui était un causeur assez brillant. Alors on l'invitait beaucoup pour l'écouter. Et un jour, dans un salon, il est là, dans un coin, puis il ne dit rien, le temps passe, le coup, il s'attend à ce qu'il parle, rien. Et toute la soirée passe comme ça. À la fin, là, tout de même, la maîtresse de maison dit, mon cher James, là, je comprends pas, qu'avez-vous ce soir, vous êtes malade, ou pas du tout, enfin. On ne vous a pas entendu de la soirée. Ah oui, je disais que j'avais un travail terriblement, excusez-moi, je suis désolé, j'ai un travail tellement important. Je cherchais un mot. Je lui dis, ah, vous l'avez trouvé? Il dit, oui, c'était le mot jeu. Mais ça a l'air d'une blague, mais je sais que ce n'est pas une blague. Beckett, qui est un des prix Nobel actuels et que je crois comme un des grands écrivains vivants, peut-être un des seuls grands écrivains vivants. Beckett qui écrit très très peu, qui quelquefois il a ses textes pour rien, des textes qui font une page, une demi-page, qui sont magnifiques. C'est l'auteur d'En attendant Godot, vous avez peut-être entendu parler de la pièce qui est aussi magnifique et qui est fait de mots comme ça, qui viennent très péniblement les uns après les autres. C'est un des écrivains qui est allé le plus profond certainement dans la difficulté d'être actuelle. Alors on disait, Beckett, en somme, vous écrivez très peu. Il dit, oui, je reste à mon bureau tous les jours, à la même heure, tous les jours à mon bureau. Mais j'attends que le mot vienne. Et on dit, alors le journaliste lui dit, qu'il se croit intelligent, il dit, ah oui, le stylo au doigt. Il dit, pourquoi le stylo au doigt? Non, posé à côté de moi. Je ne sais pas si vous saisissez ce qu'il y a de fabuleux dans un tel aveu. D'aveu à la fois de difficulté d'écrire, bien sûr, mais en même temps de parfaite confiance. On sait que ça viendra, on sait que de ce vide, de cette absence même, va naître la forme. Va naître la forme nouvelle. Et il se comprend, si vous avez bien retenu ce que je vous ai dit dans la première partie là, de cet exposé, dans la première heure, il se comprend très bien que ce soit qu'il en soit ainsi. Si le réel n'est pas vrai, s'il n'est pas le reflet de nos regards, s'il n'est pas un acte plus ou moins moral, il est ce qu'on en fait, le réel. Le réel est exactement, prend la forme qu'on lui donne. Et cette forme, elle ne peut pas naître d'une pensée préétablie, elle ne peut pas naître de la volonté d'être héroïque, comme le veut le jeune écrivain. Ce n'est pas parce qu'on veut faire un chant sublime qu'on va faire un chant sublime, ce n'est pas vrai. On fait un chant sublime quand on a trouvé, quand on a mis l'un à côté de l'autre, les mots qui font ce chant sublime. Mais ces mots, ils sortent d'où? Dans un de mes livres, qui n'est pas un roman, qui fait partie de mes œuvres mythologiques, « Les dieux étrangers », analysant la création, le phénomène de la création, le créateur veut détruire, il veut noircir la page blanche le gêne, il veut la noircir, il veut détruire le marbre, il veut casser le marbre, c'est des sculpteurs, et il veut briser le silence, c'est les musiciens, mais il ne veut rien d'autre, il ne faut pas qu'il veuille autre chose que ça. Il est là pour briser le silence, il est là pour briser le marbre, il est là pour noircir le papier. Et s'il n'a pas d'autre ambition que celle-là, d'être un destructeur de la réalité, de l'introuvable réalité, à ce moment-là, il va créer la réalité. À ce moment-là, cette brisure cette brisure du marbre va être une statue. Ce noircissement du papier va être un poème. Cette brisure du silence va être une symphonie.
mais ça lui sera comme donné, en quelque sorte. Il sera entraîné malgré lui-même, dès qu'il aura commencé à casser, à briser. Ça semble très mystérieux, c'est pas mystérieux, parce que tout c'est comme ça. Le poussin casse l'œuf, et quand il a cassé l'œuf, alors il existe. Mais il n'existe pas aussi longtemps qu'il n'a pas cassé l'œuf. Et d'une certaine manière, l'enfant qui naît casse un peu sa mère, bien sûr. Il y a un mouvement de violence, il y a un mouvement de refus, mais pas de refus moral, pas de refus intellectuel, pas de refus philosophique. Ce n'est pas pour faire le mal qu'on écrit, ce n'est pas pour se manifester comme un révolté qu'on écrit. C'est parce que on veut faire quelque chose qui dure. Et on ne sait pas comment le faire, et on n'est pas sûr que ce qu'on va faire va durer. Alors, on casse, c'est ce que fait l'enfant. Ce que fait l'enfant quand vous commencez à donner un crayon à l'enfant, ou un bout de papier, je dis le petit enfant de 2-3 ans, il va faire des gribouilles jusqu'à crever le papier. Et quand il aura crevé le papier, il sera très content, il regardera son œuvre avec joie, il aura crevé, parce qu'il aura fait quelque chose. Le véritable artiste, il fait ça toute sa vie, il crève du papier, il fait des gribouilles, et puis à un moment, le gribouillis se trouve être quelque chose d'autre. Alors à ce moment-là, vous me dites pourquoi écrire ? Eh bien parce que, là encore, peut-être la rencontre d'un poète, du gars de la RATP, est assez significative. Il répond, cet homme, à cette question-là. On écrit pour durer, on crée pour durer. À partir du moment où vous allez à l'âge que vous avez, il faut quand même que vous le sachiez, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, c'est effrayant, mais il faut que vous le sachiez. Vous avez commencé de mourir. Oui, vous avez commencé de mourir. À partir de 10 ans, 12 ans, on commence à mourir. Et à partir de là, on va mourir un peu plus chaque jour. Oh, on s'en apercevra 30 ou 40 ans plus tard. Vraiment, les cellules ne se renouvelleront plus. Mais enfin, ça commence très tôt. Et dès qu'on prend conscience que chaque jour qui passe ne fait pas autre chose que vous approcher de la mort, c'est-à-dire que vous approchez de votre destruction, et que vous ne pouvez rien faire pour lutter contre cet éparpillement de soi-même, vous pouvez aimer qui vous voulez, ça ne vous sauvera pas de la mort, vous pouvez faire du bien autour de vous, vous pouvez manifester dans la rue si vous préférez, ça ne vous sauvera pas de la mort. Il y a quelque chose qui vous sauve. Il y a quelque chose que chaque jour vous pouvez opposer à cette entropie, à cette dégénérescence. C'est l'œuvre. Si vous écrivez La Recherche du Temps Perdu, si vous écrivez un des grands, la comédie humaine, eh bien, chaque jour vous ajoutez la pierre à l'édifice. Et bon, chaque jour va vous amener, vous approcher de la mort et va vous détruire un peu plus. Mais chaque jour va créer quelque chose qui sera chaque jour plus complet, plus parfait, plus rigoureux. Et peut-être qu'à la fin, vous créerez une œuvre qui vous survivra effectivement des siècles, 3000 ans, comme l'œuvre d'Homère a survécu à Homère. C'est le fond de la pensée de l'écrivain, du véritable artiste, c'est que son œuvre lui survivra le plus longtemps possible. On écrit pour être immortel, bien entendu. Mais ce n'est pas pour orgueil, c'est simplement pour lutter, pour combattre cette dégradation dans laquelle on s'engage dès qu'on est un homme ou une femme, à peu près, dès qu'on a quitté l'enfance.